Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, la compétition économique est-elle une question de taille ? Se faire larguer n'est jamais agréable, mais se faire larguer alors que le repas de mariage est commandé, que les invitations sont lancées et qu'à la base c'est vous qui vous êtes fait draguer, voilà qui manque singulièrement de classe. Fiat a beau faire porter la responsabilité de la rupture sur la belle famille, le gouvernement français, c'est Renault qui en fait les frais. La fusion entre les deux constructeurs n'aura donc pas lieu, dommage car le couple promettait. Troisième puissance mondiale automobile. De quoi affronter un avenir promis à de profonds changements, en particulier avec l'émergence inéluctable de la voiture électrique. Un marché immense, nécessitant de très importantes capacités d'investissement. Symboliquement, cette union avait aussi de la gueule. Un géant industriel d'ascendance européenne, dans un moment où l'essentiel de la compétition économique mondiale semble se dérouler entre la Chine et les États-Unis. Voilà qui aurait donné à la politique industrielle européenne un semblant d'existence quelques mois après l'échec de la fusion Alstom-Siemens. Cela dit, l'Europe n'est pas si mal lotie. Au classement des zones les plus attractives pour les investissements, elle arrive toujours en tête. Preuve que la politique de la concurrence défendue à Bruxelles n'est peut-être pas si anachronique que certains le disent. Alors, compétition économique, une question de taille. C'est la discussion du soir en compagnie de trois invités. Anne Perrault, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, spécialiste des questions de concurrence, ancienne vice-présidente de l'autorité de la concurrence. Vous avez co-signé une note toute récente, c'était en mai dernier, pour le Conseil d'analyse économique, qui est un organisme rattaché à Matignon. Intitulé de cette note, concurrence et commerce, quelle politique pour l'Europe ? Pour discuter avec vous, Ali Laidi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à la toute nouvelle École de pensée sur la guerre économique, qui est un think tank. Vous êtes par ailleurs chroniqueur à France 24. Vous y êtes responsable du journal de l'intelligence économique et vous avez publié cette année chez Actes Sud Le droit, nouvelle arme de guerre économique, comment les États-Unis déstabilisent les entreprises européennes. Notre troisième invité est au téléphone depuis Madrid, en Espagne. Il s'agit d'Anne-Sophie Alsif. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef de projet à la Fabrique de l'Industrie, qui est là encore un think tank. Think tank qui regroupe des industriels, justement. Vous avez notamment travaillé au ministère des Affaires étrangères et aux Affaires européennes sur les questions économiques. Alors, je voudrais évidemment commencer la discussion avec vous sur ce qui s'est passé cette nuit. Chrysler Fiat, ou Fiat Chrysler, qui retire son offre de fusion avec Renault. Est-ce que vous diriez, Anne Perrault, que c'est tant pis ou que c'est tant mieux ?
Alors, il faut d'abord prendre beaucoup de précautions parce que les raisons de cet échec ne nous sont pas entièrement connues. Les motivations de la fusion qui était projetée ne nous étaient pas entièrement connues non plus. Et par conséquent, c'est très difficile de porter... Déjà, c'est difficile de porter un jugement sur les fusions qui se sont déroulées, ont été jusqu'à leur terme, savoir si finalement c'était une bonne ou une mauvaise chose. Alors, des fusions qui ont simplement été évoquées, c'est encore plus difficile. Ça renvoie de manière un peu plus générale au fait de savoir si la grande taille, c'est exactement le thème de l'émission, est un facteur favorable de développement des industries. Et ça, je dois dire que c'est difficile d'avoir une réponse univoque sur cette question. Il y a plusieurs éléments. D'abord, quand on cherche à regarder quels sont les rendements d'échelle dans l'industrie, ben, on s'aperçoit que d'un secteur à l'autre, les choses sont assez différenciées. Il y a une petite tendance générale à l'accroissement des rendements d'échelle, c'est-à-dire à l'accroissement du fait que plus on est gros, plus on réussit. Mais d'un autre côté, cette tendance est un peu contrebalancée par le fait que les biens d'équipement coûtent plutôt de moins en moins cher. Alors ça, de pair avec le fait que il y a une certaine individualisation des modes de consommation qui font que finalement la grosse consommation de masse, évidemment, existe encore pour certains produits. Mais de plus en plus, les consommateurs ont envie de produits qui sont designés de manière plus fine pour correspondre à leurs préférences. Et du coup, la grande taille n'est pas un facteur absolument décisif.
Et dans le cas plus particulier du secteur automobile, alors en sortant peut-être du seul cas Fiat-Renault, mais ce secteur automobile, qui je le disais au début en introduction, est soumis quand même à, en tout cas est promis à de grandes mutations avec la voiture électrique, la remise en cause aussi de la voiture individuelle. Est-ce que là, justement, la grande taille paraît plus apte à répondre à ces enjeux.
C'est possible. Ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement, le secteur de l'automobile tel qu'on le connaît aujourd'hui, on ne sait même pas s'il existera encore tel quel dans 20 ans. La question, c'est est-ce que des unités de plus grande taille, comme cette méga fusion qui était projetée, sont plus à même de prendre les virages technologiques et, par exemple, d'être des acteurs de pointe dans le domaine de la voiture autonome ou de la voiture électrique. Ça, c'est pas du tout évident. Si vous prenez, alors évidemment, faut pas faire d'analogie trompeuse, mais prenez un secteur comme celui de la pharmacie. Dans la pharmacie, il y a à la fois des énormes laboratoires mondiaux qui font beaucoup de R&D et qui, disons, répartissent le coût de cette R&D sur des marchés mondiaux. Et puis, il y a aussi plein de start-up et finalement, l'innovation est assez partagée entre les deux. Donc, c'est difficile de répondre à la question.
Alors, même question à Lilaï et réaction aussi peut-être parce que vient de dire Anne Perrault.
Ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction des deux parties. Alors, on a d'un côté les Italiens, Vian John Ekman qui dirige Fiat, qui dit que les Français n'ont pas avancé à cause de questions politiques. Hein. Et de l'autre, les Français, à travers un communiqué donc du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui dit on était à peu près d'accord sur tout, sur donc la garantie des emplois, des sites en France. On était à peu près d'accord sur une gouvernance d'égo, mais ça n'existe pas. Hein. Ça c'est de l'affichage. Et puis on était.
Ça n'existe pas. Vous voulez dire qu'il y a forcément des problèmes d'égo dans ce cas.
Il y a toujours un plus fort qui remporte la mise. Et dans ce secteur-là. Là, dans ce mariage-là, le plus fort, c'était clairement Fiat. Et il y a un dossier qui n'a pas avancé, qui a donné cette crise l'autre nuit précédente, c'est le fait de savoir si Nissan était de la partie. Les Français ont dit qu'ils ne voulaient pas signer tant que Nissan n'était pas incorporé dans la partie. Et on a eu la réaction immédiate des Italiens qui ont retiré leur offre. Pourquoi Nissan ? On se demande si c'est en fait pas la vraie cible des Italiens. C'est pas Renault, mais en fait, la cible, c'est Nissan. Et c'est notamment les plateformes technologiques qui vont s'ouvrir là, dans les années qui viennent, sans doute 2020-2021, ces fameuses plateformes technologiques qui vont construire la voiture électrique des années qui viennent.
J'entends dans ce que vous dites, Ali Laïdi, que la dimension politique, elle est évidemment extrêmement importante. C'est pas juste des affaires économiques. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous considérez, peut-être que sur le principe, en tout cas, cette idée d'avoir un grand champion, si ce n'est exclusivement européen, mais enfin, en tout cas avec à sa tête un groupe français, Renault, un groupe italien, Fiat, politiquement, ça pouvait avoir un sens intéressant.
Ben oui, de toute manière, sincèrement, c'est quoi le défi des années qui viennent dans l'automobile ? C'est de rattraper l'immense avance qu'ont les Chinois sur la batterie, donc, in fine, sur la voiture électrique. Et ce défi-là, vous le remontez comment ? D'abord, en faisant en sorte que vos entreprises soient fortes sur ces technos, et d'ailleurs, le gouvernement français les aide en créant l'Airbus des batteries, c'est-à-dire le retard, et ensuite en construisant, en effet, des entreprises qui ont une taille capable de rivaliser avec les géants mondiaux que seront demain les géants chinois et aujourd'hui américains.
Donc être un géant, ça n'est pas une obligation, mais dans certains secteurs et dans certains contextes, ça peut l'être. Qu'en pensez-vous, vous, Anne-Sophie Alsif ?
Oui, je rejoins en effet Madame Perrault. Il faut vraiment bien faire attention au niveau des secteurs où les situations sont excessivement différentes. Nous avons travaillé à la fabrique notamment sur les entreprises industrielles en Italie, puisque l'Italie, la deuxième puissance industrielle derrière l'Allemagne et devant la France. Et là, ce que l'on voit, c'est que dans les secteurs où ces entreprises exportent, où elles sont puissantes au niveau de leur industrie, ça peut être des industries de niche. Et donc, la taille de ces entreprises n'est pas forcément très importante, mais elles sont très bien positionnées et arrivent à faire face à la compétition internationale. Donc je pense en effet qu'il faut rester très prudent, ne pas faire de généralité et bien évaluer dans quel secteur et de quelle industrie on parle.
Et quand on parle de l'industrie automobile, justement, pour vous, Anne-Sophie Alsif ?
Alors là, en effet, il y a une vraie question, puisque comme l'ont dit les autres invités, nous avons la question technologique qui est excessivement importante avec le passage électrique, avec la voiture autonome. On a également toutes les normes environnementales qui seront, à mon sens, de plus en plus élevées et qui augmenteront les différents coûts dans les chaînes de valeur mondiales et dans le processus de production des automobiles. Donc c'est vrai que dans cette industrie particulière, la question de la taille est un véritable enjeu et a un impact. Ensuite, il ne faut pas faire, à mon sens, de corrélation entre la taille et le succès. Ce n'est pas parce que le groupe va être excessivement important, va avoir plus de marchés, plus, on va dire, d'éléments positifs pour essayer en effet de se développer, de prendre des parts de marché, que le succès est assuré et que la transition à l'électrique se fera et que le groupe deviendra leader.
Le premier succès, d'ailleurs, ça aurait pu être que cette fusion soit acceptée, qu'elle aille véritablement jusqu'au bout. Anne Perrot, est-ce que les autorités de la concurrence européenne auraient eu leur mot à dire sur cette fusion entre Renault et Fiat ?
Très certainement. Je dirais même que c'était une condition absolument sine qua non pour pouvoir envisager la fusion en question.
Avec quels critères d'acceptation ou de refus ?
Alors, actuellement, et là vous rentrez vraiment dans un débat qui est très très actif et aigu en ce moment, où on discute un peu de la nouvelle feuille de route de la future Commission européenne. Actuellement, l'autorité de concurrence européenne envisage les fusions sous l'angle strict du bilan concurrentiel. C'est-à-dire, est-ce que la fusion va, in fine, produire une situation qui, ex poste, permet l'existence d'une certaine intensité concurrentielle sur le marché. Sur le marché européen, bien sûr. Donc, la question que se pose la DG Comp, de la Commission européenne, ça n'est pas de savoir si on construit des entreprises qui seront capables d'aller se battre sur des marchés non européen. C'est pas ça la question qu'elle se pose. La question qu'elle se pose, c'est postérieurement à la fusion, est-ce qu'il subsistera pour les consommateurs européens suffisamment de concurrence pour qu'il y ait des choix, de l'émulation, de la concurrence en prix, de la concurrence en qualité, etc. Donc c'est ça la question. Alors, tout le problème, c'est que on a fait grief, et notamment on a beaucoup entendu ça dans la bouche des autorités françaises et allemandes, à la suite de Alstom Siemens. Toute la question, c'est est-ce qu'il faudrait prendre en compte d'autres critères pour évaluer les concentrations. Pour le moment, si on voulait faire une chose comme ça, il faudrait changer de traité, parce que les traités en vigueur en Europe prévoient que les fusions sont envisagées sous le seul angle concurrentiel. Cela dit, ce qu'il faut bien voir tout de même, c'est que l'angle concurrentiel, ça attrape énormément de choses, en fait. La concurrence, c'est pas seulement les prix, les quantités, c'est aussi la capacité à faire de la R&D, c'est la capacité de la recherche et développement, c'est évidemment la capacité à être performant et compétitif sur des marchés européens, certes, mais aussi, du coup, sur des marchés d'exportation. Et donc, souvent, il y a plusieurs sujets qui sont un peu mélangés. Il y a le sujet du contrôle des concentrations et de la concurrence, mais il y a aussi ces questions qui touchent au commerce international et qui sont finalement la question de savoir si on se bat à armes égales avec les grands concurrents mondiaux auxquels on fait face sur les marchés internationaux.
Alors justement, Léla Hédy, considérez-vous que les règles de la concurrence telles que viennent de les expliquer Anne Perrot permettent aux groupes européens de se battre à armes égales à l'extérieur des frontières de l'Union, dans la mesure où ces règles de la concurrence, elles sont d'abord à usage interne.
Non, mais c'est vrai qu'il y a une confusion. C'est vrai que lorsque Margrethe Vestager, la commissaire à la concurrence, dit non à mariage, à la fusion entre Alstom et Siemens, elle dit entre les lignes, moi j'applique les textes, les traités européens, à vous de changer, de modifier le droit de la concurrence en Europe. Songez quand même que ce droit de la concurrence date de 1990. Il s'en est passé quand même des choses depuis 1990. La Chine n'était pas encore dans l'OMC. Donc, en gros, ce droit doit évoluer, doit se conformer aux nouvelles donnes de la politique et de l'économie mondiale. Mais pour autant, je ne pense pas que ça soit un facteur bloquant, ou du moins le premier facteur bloquant qui empêche les entreprises européennes de jouer à armes égales. Anne Perrot l'a dit dans sa note du Conseil d'analyse économique. Ce qui doit être articulé, c'est à la fois la réflexion sur la politique de concurrence, mais aussi la politique commerciale, et réintroduire un petit peu une vision de la politique industrielle et articuler ces trois choses pour pouvoir jouer à armes égales. Dans la note que vous avez rédigée, vous utilisez même le terme de réarmement économique. Donc c'est dire combien vous sentez que il y a eu une faiblesse un défaut de conscience de la part des élites européennes à Bruxelles ou à Paris sur la manière dont les marchés évoluaient et sur la manière dont la concurrence obligeait l'Europe à s'adapter.
Et j'ai vu d'ailleurs dans une interview que vous avez donnée à Lila Heidi au moment de la sortie de votre livre que vous disiez que l'Union européenne s'est toujours concentrée sur l'idée de paix depuis 40 ans. Elle refuse de voir le champ économique comme un champ d'affrontement. Ouais. Elle pense que promouvoir les idées de liberté et de démocratie peuvent suffire dans ce domaine. Vous en pensez quoi, vous, Anne-Sophie Alsif?
Oui, tout à fait. Je vais tout à fait dans ce sens. Et c'est vrai que le débat, et c'est intéressant de parler de la politique de la concurrence, de la politique commerciale, et d'ailleurs, en effet, la note du CAE montre bien la différence et ce que ça apporte, en tout cas même la politique de la concurrence qui est efficace et qui apporte des choses très positives au sein de l'Union européenne, puisque la finalité est bien sûr le consommateur, et dans cette finalité-là, elle occupe tout son rôle. Pour moi, la problématique, c'est de changer de paradigme. Vous avez aujourd'hui, et comme on vient de le dire, des acteurs qui sont en effet la Chine et les États-Unis, qui sont tout à fait différents. Et c'est très difficile pour moi de dire aujourd'hui, oui, nous, on respecte les règles, mais en effet, les autres ne le font pas. Avec des acteurs comme les États-Unis et la Chine qui ont une stratégie, qui ont une finalité excessivement claire, c'est-à-dire la Chine, le marché intérieur, et sur des chaînes de valeur excessivement précise, être leader, être complètement autonome du reste du monde, donc ne pas être averse aux tensions protectionnistes, et on se voit notamment dans la chute colossale de la part de leurs intrants étrangers dans leurs exportations. Et de l'autre côté, les États-Unis, avec le président Trump, qui a pour objectif de privilégier, en effet, l'Amérique et son marché également. Et
mais Anne-Sophie Alsif, pardonnez-moi, quand vous dites qu'il faudrait peut-être changer de paradigme par rapport, alors si je comprends bien, à cette politique de la concurrence. Est-ce que ça veut dire que selon vous, il faudrait moins se focaliser sur la défense des consommateurs et davantage sur la défense des intérêts stratégiques nationaux ou européens ?
Définir les intérêts stratégiques européens. Et à mon sens, on ne les définit pas. Et comme on ne définit pas la finalité, on ne problématise que sur les moyens. Juste un exemple, en effet, au niveau de l'Union européenne, comme je l'ai dit, tous les pays ne sont pas des puissances industrielles. Déjà, quand vous partez de ce constat-là, en effet, tous les pays n'ont pas intérêt ou n'ont pas la même problématique concernant leurs industries, puisque vous avez plein de pays qui ne sont pas confrontés à ça dans leur économie. Deuxième champ, en effet, pendant que je dis ces deux puissances, les États-Unis et la Chine, ils ont une finalité qui est économique et politique. Et ils utilisent l'arme commerciale, l'arme économique pour aller dans cette finalité-là. Nous, au niveau de l'Union européenne, on est toujours en train de définir ça. Parce qu'on a des intérêts différents, parce qu'on a des économies divergentes, et que donc c'est beaucoup plus difficile de rétablir un consensus politique et une vision stratégique politique, de dire, bah nous, au sein de l'Union européenne, voilà, dans 10 ans, dans 20 ans, on veut être leader dans ça, 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 ça. Et à mon sens, c'est ça qui manque. Et comme nous n'avons pas ça, nous problématisons sur les outils qui sont en effet la politique de la concurrence, mais qui joue tout à fait son rôle dans sa finalité, et la politique commerciale.
Donc peut-être faudrait-il, Anne Perrot, plutôt que de mettre d'abord en avant cette politique de la concurrence qui est censée profiter aux consommateurs, d'abord définir les intérêts stratégiques, essayer de les défendre, ce qui ensuite peut profiter justement aux consommateurs, et pas seulement aux consommateurs d'ailleurs, aussi aux travailleurs. C'est-à-dire quand il y a des groupes industriels qui sont importants et qui sont forts, ça profite d'abord au marché du travail.
Oui, mais le problème, c'est que si tout le monde était d'accord et tout le monde avait des intérêts convergents, ce serait extrêmement simple, et je pense que depuis longtemps, on aurait mis en œuvre ces outils de politique commerciale dont Anne-Sophie parle à l'instant, et je suis tout à fait d'accord avec elle.
Bon, on va vous citer Airbus, hein, qu'on cite en général pour dire la preuve qu'on est capable de le faire.
Oui, mais alors attendez, Airbus, je pense qu'on l'utilise un petit peu à tort et à travers. On a construit Airbus dans un monde dans lequel le seul constructeur d'avions était Boeing. Et donc, il s'agissait de créer de la concurrence, pas du tout de diminuer l'intensité de la concurrence. On a créé un concurrent à Boeing. Quand on dit il faudrait faire l'Airbus du rail, l'Airbus des batteries, l'Airbus de ceci, l'Airbus de cela, ce qu'on a en tête, c'est en fait exactement le mouvement inverse, c'est-à-dire une restriction de concurrence pour créer un champion qui, hypothétiquement, réussirait mieux que des entreprises qui se battent, finalement. Alors, juste peut-être pour remettre les choses en perspective, depuis 2010 et jusqu'à juin 2019, donc l'heure où on parle, sur près de 3000 fusions qui ont été examinées par la Commission européenne, il n'y en a eu que 9 de refusés. Et encore, sur ces 9, un certain nombre portaient non pas sur des fusions d'entreprises européennes entre elles, mais d'entreprises européennes avec des entreprises extra-européennes, américaines en l'occurrence. Donc c'est vrai que la politique de concurrence peut difficilement être accusé d'empêcher l'émergence de champions. Alors, en revanche, quand on s'intéresse aux outils que pourrait mettre en œuvre la politique commerciale, je rappelle que la politique commerciale, c'est aussi une prérogative de la Commission européenne. Donc, c'est exactement comme la politique de concurrence au niveau européen, c'est la Commission qui met en œuvre la signature des grands traités de libre-échange.
Pas surtout. Pas quand le traité est très large et dispose d'un domaine dans les transports,
non,
etc. Il y a
bien
une compétence
sûr.
Qui est limitée sur un certain nombre de secteurs.
Oui, mais enfin, bon, ouais. Disons que la DG Trade est quand même la tête de pont qui négocie oui. les traités de libre-échange.
Alors, DG Trade, sur la Direction Générale du Commerce.
Ouais. Voilà, la Direction Générale du Commerce, l'autorité qui négocie au nom de l'Europe des traités de libre-échange. Et elle est très orientée vers l'ouverture des marchés et la négociation de traités. Traité libre-échange. C'est pas du tout dans son ADN de dire il faudrait peut-être fermer les frontières européennes aux entreprises qui ne respectent pas les mêmes règles du jeu. Alors, quelles sont ces règles du jeu ? Quand la Chine est rentrée dans l'OMC, c'est-à-dire en 2001, elle a explicitement adhéré à des principes communs au sein de l'OMC, et parmi ces principes, il y a l'idée que les entreprises, les États qui participent à l'OMC, doivent déclarer tous les 2 ans les subventions dont bénéficient leurs entreprises. La Chine ne s'acquitte pas de ses obligations. Donc, quelle serait la solution logique de cette situation ? Ce serait de recourir à l'organe de règlement des conflits et des différends de l'OMC et de faire rentrer la Chine dans le rang. Mais le problème qu'on a, c'est qu'évidemment, les États-Unis ont en très grande partie détruit cet organe de règlement des différends, ce qui fait qu'aujourd'hui, la Chine est dans l'OMC et qu'il n'y a plus de gendarmes qui soient capables de lui faire respecter ses engagements.
Allez, moi, je pense qu'il faut retenir le mot d'Anne-Sophie. C'est un paradigme nouveau. Je veux dire, vous dites qu'ils sont les Européens sont pas d'accord, c'est vrai. Mais en France non plus, on n'est pas d'accord. Citez-moi des économistes qui nous parlent de la sécurité économique. Citez-moi des économistes qui nous parlent des affrontements économiques, lesquels peuvent déboucher sur de la guerre économique. Il n'y a pas de pensée sur la guerre économique, sur l'affrontement économique en France. Donc on part de zéro. C'est tout un paradigme qu'il faut totalement reconstruire, toute une pensée à la fois dans les universités, dans les grandes écoles. Il faut nourrir le politique avec cette pensée. Et l'affrontement, il n'a pas lieu qu'avec la Chine. Il a lieu aussi avec les États-Unis. Il aura lieu demain avec le Brésil, avec l'Inde, etc. Donc toute la question, c'est créer une pensée là-dessus pour savoir qu'est-ce que nous, Européens, on doit protéger.
Mais ça doit être quoi pour vous, Alilaïdi, les critères fondamentaux de cette nouvelle pensée ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui doit dicter, justement, cette pensée stratégique de la défense des intérêts, que ce soit français ou européen, dans le cadre de cette guerre économique ?
L'accroissement de puissance est incontournable pour rester ce que nous sommes, mais ne pas imposer notre modèle aux autres. Aujourd'hui, l'Europe est pris entre deux feux, le feu américain, le feu chinois. Toute la question, c'est comment fait-on pour que nous, Européens, nous préservions notre modèle économique, politique, social, culturel, etc. Et pour ça, il n'y a pas 50 000 chemins, c'est l'accroissement de la puissance pour rester nous-mêmes. Et donc, définir à travers une doctrine qui mérite là, pour le coup, des années d'études et des réflexions, ce qui est important pour rester nous-mêmes en termes de stratégie et en termes d'industrie, de souveraineté qui nous permet de rester. Quand on vend Alstom Energy à General Electric, on vend notre souveraineté sur le nucléaire. Puisque c'est une partie du nucléaire, et Dieu sait que la France est assez nucléarisée d'un point de vue civil, mais aussi militaire. Donc ça devrait faire partie des éléments sur lesquels le politique et l'économique réfléchit.
Mais Ali Laïdi, encore un mot. Quand, dans le précédent gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, avait bataillé, si ma mémoire est bonne, pour récupérer les questions de diplomatie économique, est-ce qu'il n'y avait pas un peu de prise de conscience de la nécessité, justement, d'associer la politique étrangère à la politique économique et d'en faire un instrument de puissance et de conquête.
Il y a toujours eu une bataille à partir de la fin du 19e et tout le 20e siècle pour savoir qui allait prendre le bébé du commerce extérieur, entre le ministère des Affaires étrangères ou le ministère du Commerce. Donc Laurent Fabius est arrivé, il a mis en place son concept de diplomatie économique et pour ça il a récupéré un certain nombre de dossiers, les affaires étrangères, le commerce extérieur, le commerce, le tourisme, etc. Donc oui, il y a une prise de conscience à partir de 2012 où il dit aux ambassadeurs, vous êtes en effet présent pour pouvoir faire en sorte de soutenir les entreprises françaises et européennes dans les exportations. Mais cette prise de conscience, elle est individuelle. Elle est celle d'un ministre en 2012. Et il faut une prise de conscience qui entraîne l'ensemble de l'académie, de l'université, pour repenser au niveau français et au niveau européen la manière dont s'exécutent les affrontements économiques aujourd'hui.
Alors, je ne sais plus lequel de vous deux, Ali Laïdi ou Anne Perrault, a cité tout à l'heure le cas du Brésil. Anne-Sophie Alsif, en préparant l'émission, vous nous avez justement évoqué le cas brésilien à l'époque du président Lula.
Tout à fait.
Vous nous expliquez alors qu'en gros, c'est quoi ? C'est-à-dire le Brésil, plutôt que d'être dans une compétition directe avec les États-Unis dans lequel il était forcément en position
d'exportateur de matières premières, oui.
A fait quel choix ?
Son choix, c'était plus de développer ses relations économiques, commerciales, avec les pays ayant un revenu intermédiaire identique. Donc notamment, développer des coopérations avec l'Inde, avec la Chine, avec la Russie, avec l'Afrique du Sud. Et ce qui est assez intéressant et ce que j'ai pu en effet étudier dans mes travaux, c'est aussi la stratégie d'entreprise brésilienne, notamment en Afrique, pour répondre à la venue des Chinois et de leur intérêt géostratégique, puisqu'en effet, ils viennent beaucoup dans le continent africain pour essayer de sécuriser l'apport de leurs matières premières. Et c'est vrai que l'arrivée de ces nouveaux pays émergents, notamment en Afrique, et donc comme vous l'avez très bien dit, au moment où il y a eu une réflexion au sein de la France de repenser notre politique étrangère commerciale et d'associer notre diplomatie économique avec nos intérêts diplomatiques, eh bien c'est vrai que ces pays émergents-là avaient un objectif analogue pour concurrencer la Chine et pour aussi prendre des parts de marché et développer leurs grandes entreprises en Afrique, mais également dans d'autres pays émergents.
Est-ce que ça pourrait être du coup une piste de développement stratégique pour la France ou pour l'Union européenne ? Ou bien parce que l'Union européenne, si elle agit de manière unie, elle pèse largement aussi lourd hein, que les États-Unis et que la Chine, Anne-Sophie Alsif ?
Complètement, ça pourrait être une stratégie. Après, il y a de grandes difficultés, puisqu'en effet, en tout cas notamment en Afrique, étant donné qu'il y avait aussi les anciens empires coloniaux, les différents pays européens avaient également historiquement, on va dire, des positions différentes. Donc en effet, la France a perdu beaucoup de parts de marché, donc il pourrait y avoir une volonté européenne de reconquérir, mais ça se fera que sur l'offre du produit. Ça se fera sur économiquement, commercialement, qu'est-ce qui est intéressant pour le marché américain. Ça ne se fera pas politiquement. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on a de nouveaux concurrents puissants, la Chine, mais également d'autres pays émergents, qui sont en concurrence avec l'industrie européenne. Là aussi, il faut aussi faire attention quand on dit industrie européenne. On parle aussi très souvent et majoritairement de l'industrie allemande, puisqu'en effet, on garde la balance des comptes courants européennes. C'est surtout, en effet, l'industrie allemande aujourd'hui qui explique l'excédent.
Anne Perrault.
Oui, je voulais revenir là-dessus. Vous avez dit vous-même tout à l'heure, si l'Europe est unie, alors on pourra faire telle et telle chose. Ce qui fait obstacle aujourd'hui à la mise en œuvre d'une politique commerciale européenne, c'est le fait que les intérêts des différents États membres ne sont pas du tout convergents. Je vais vous donner un exemple. En principe, à l'OMC, quand on fait partie de l'OMC, on ouvre ses marchés publics aux pays qui font partie eux aussi de l'OMC. Donc, on a ouvert les marchés publics européens à la Chine. La Chine répond à ces appels d'offres pour les marchés publics avec des entreprises qui sont massivement subventionnées, ce qui leur permet de faire des prix très bas dans les marchés publics. La logique voudrait que, à partir du moment où les Chinois peuvent concourir pour remporter des appels d'offres dans les marchés publics, les entreprises européennes puissent faire la même chose en Chine. Ça n'est pas le cas.
Ni aux États-Unis, ni au Japon.
Toutes les
entreprises. Il n'y a pas que la Chine.
Bien sûr.
Les marchés publics aux États-Unis et au Japon sont fermés. Tajani l'a écrit, Barnier l'a écrit il y a plus de 10 ans.
D'accord. Mais la spécificité des entreprises chinoises, c'est qu'elles sont beaucoup plus massivement subventionnées que les entreprises des autres pays que vous venez de citer. Donc on a un problème de subvention. Ça, c'est un problème de défense commerciale. On a des outils qui s'appellent des droits anti-subvention, où quand on observe qu'une entreprise est subventionnée, on devrait pouvoir lui appliquer un droit anti-subvention. Quelle est la nature du problème ? Premièrement, il y a des pays qui n'ont pas du tout envie qu'on empêche les entreprises chinoises de répondre avec des prix bas à des appels d'offres publics. Pourquoi ? Parce que ça économise leur denier public, tout simplement. Ça permet d'avoir des marchés publics qui sont servis pour moins cher que si c'était des entreprises européennes qui remportaient ces marchés. Et donc, ils sont tout à fait hostiles à l'idée qu'on pourrait barrer l'entrée aux entreprises chinoises. Et ils ne veulent pas non plus déclencher de guerre pour accéder au marché chinois, de peur que les Chinois ne candidatent plus sur les marchés publics européens. Donc ça, c'est un premier problème. La deuxième difficulté qui est vraiment considérable avec la Chine, et c'est ce qui distingue quand même la Chine de la plupart des autres pays, c'est que on a une définition juridique qui est extrêmement restrictive de ce que c'est qu'une subvention. Une subvention, c'est de l'argent de l'État à une entreprise. Les entreprises chinoises sont subventionnées de mille et une manières. Il s'agit pour elles d'avoir accès à des inputs, à des prix préférentiels parce que ces matières premières sont produites elles aussi par des entreprises d'État et que les entreprises d'État sont toutes asservies à un même objectif qui est la puissance industrielle chinoise. Donc des subventions de cette nature-là ou un prêt à un taux préférentiel par une banque publique chinoise, c'est des subventions qui ne rentrent pas dans les catégories habituelles de la subvention, qui sont donc très difficiles à caractériser et donc vis-à-vis desquels il est très difficile de se défendre. Mais je dirais que le point numéro un, c'est quand même d'avoir un relatif consensus et une unité européenne qui fait défaut aujourd'hui.
Ouais, ce sera peut-être quelque chose qui adviendra dans la prochaine mandature avec la nouvelle commission, dont on verra bien quand est-ce qu'elle sera mise en place. Ali Laïdi, dans votre livre que je cite au début de l'émission, Le droit nouvelle arme de guerre économique, comment les États-Unis déstabilise les entreprises européennes. Vous expliquez bien justement comment avec sa législation l'empire américain peut imposer ses vues à un certain nombre d'entreprises dans le monde, notamment européennes. Tout ça c'est adossé bien sûr à sa monnaie, qui est une monnaie quasi hégémonique, c'est le dollar. Mais est-ce que sur le terrain du droit, il n'y a pas justement la possibilité de contrer ces grandes puissances économiques que sont les États-Unis, que sont la Chine pour l'Europe? Bon, l'OMC, on voit bien que c'est une enceinte au sein de laquelle il est compliqué aujourd'hui manifestement de faire respecter les règles.
Compliqué, je vois pas pourquoi. En 96, quand les Américains votent la loi Helms-Burton, donc interdisant aux entreprises américaines et étrangères de faire du business avec Cuba, il y a une chose qui fait reculer les Américains, c'est la plainte à l'OMC. Et ça marche. Sauf que les Européens font une erreur, ils vont pas au bout de la plainte. Bill Clinton, le président, leur dit, écoutez, vous retirez votre plainte, moi, je m'arrange, je n'utiliserai pas le titre 3, lequel dans la loi autorise les tribunaux américains à poursuivre les entreprises étrangères, et je vais aller voir le Congrès, et je vais leur dire aussi de pas utiliser le titre 3. Immense erreur. Parce que là, il fallait sans doute aller au bout du processus pour qu'une instance internationale nous dise si oui ou non les États-Unis ou un autre pays peut exporter son droit de cette manière.
Pourquoi ne le font-ils pas aujourd'hui ?
Voilà. Lorsqu'aujourd'hui, je repose la question à Bruxelles, à Paris, en disant mais pourquoi vous ne déposez pas plainte ? Les États-Unis ont quitté l'accord sur l'Iran, interdit aux entreprises étrangères, notamment européennes, de faire du business avec l'Iran. Pourquoi vous ne déposez pas plainte à l'OMC ? Surtout pas. Vous vous rendez compte, il risque de quitter l'OMC. Donc voilà, on vit sous cette épée de Damoclès, à Bruxelles comme à Paris, d'une peur des États-Unis et de la peur que les États-Unis quittent l'OMC. Et cela, malgré le fait que les États-Unis annoncent tout simplement, par la voix du président Trump très récemment en Grande-Bretagne, que son ennemi c'est l'Europe, que les Anglais ont tout intérêt à quitter l'Europe sans payer le chèque, etc. Et que sa vision, c'est que l'Europe soit cassée, tout simplement.
Vous n'avez pas l'air d'accord, Nicolas.
Enfin, je suis à la fois d'accord et pas d'accord, peut-être pas avec la formulation. Tout se passe aujourd'hui comme si les États-Unis avaient quitté l'OMC, puisqu'ils n'agissent absolument plus sous l'Empire.
Donc pourquoi ne pas déposer plainte ?
Ben oui, d'accord. De ce point de vue, je suis d'accord avec vous. De fait, les États-Unis ont détruit le système de négociation multilatérale parce que Trump s'imagine que dans le bilatéral, il sera plus fort. D'ailleurs, les faits lui donnent assez raison jusqu'à maintenant. Et donc, de fait, les États-Unis sont sortis du système multilatéral de l'OMC.
C'est la question de la réciprocité. Nous, on ne l'a jamais posé, les Européens. Si on nous fait ça, alors on doit répondre de la même façon. C'est la question de la peur de rendre les coups. Il n'y a pas de courage là-dessus.
Il y a une peur des Européens, ou en tout cas peut-être une forme de timidité, Anne-Sophie Alsif.
Je vais également dans ce sens, et ce qui est plus intéressant, c'est, comme j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est quand on voit justement l'évolution de la valeur ajoutée étrangère dans les exports, et c'est assez intéressant quand on voit la stratégie un peu des trois blocs, quand vous prenez entre 2005-2016, vous voyez que la Chine est à moins 11 points, les États-Unis à moins 2 points, donc beaucoup moins, mais que l'Europe reste dans le négatif, dans le positif. Donc ce qui veut dire, c'est que de chaque côté, vous avez des deux blocs qui sont dans une volonté de régionalisme, qui sont dans une volonté de défendre leur marché intérieur, d'avoir des industries de moins en moins insérées dans les chaînes de valeur mondiales, alors que l'Europe a une vision différente. Donc si demain, en effet, comme vous l'avez dit, il y a des peurs, on dit bah très bien, on va contre la Chine, on va contre les États-Unis, pour les Européens, il y aura peut-être une position moins favorable que leur homologue chino-américain. Ils diront, il n'y a pas de problème, condamnez-nous, faites du protectionnisme. Nous, de toute façon, sur tout ce qui est stratégique, on est complètement autonome et indépendant, et donc on n'a absolument aucun problème avec vos sanctions. Donc c'est pour ça que lorsque tout à l'heure je parlais d'un changement de paradigme et d'une vision stratégique qui nous manque en Europe, à mon sens, c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile et important à moyen long terme. C'est que dans les stratégies des deux autres blocs, il y a vraiment une stratégie d'autonomie qui fait que avoir des sanctions et de dire vous respectez pas les règles alors que c'est en effet ils ne le font pas, eh bien c'est beaucoup plus difficile à l'Europe de rétorquer, puisqu'elle est beaucoup plus dépendante dans les chaînes de valeur que les Chinois ou les Américains.
Mais est-ce que ça n'est pas aussi parce que la stratégie et la doctrine de l'Union européenne est beaucoup plus ouverte que peut l'être aujourd'hui celle des États-Unis et de la Chine, que l'Europe est plus attractive aujourd'hui en matière d'investissement? Et quand il y a des investissements, ça profite évidemment aux endroits où on investit, sauf quand il y a des entreprises ensuite qui s'en vont, la vue avec General Electric par exemple.
C'est toute la problématique de savoir ce que l'on veut privilégier. En effet, pareil, quand on regarde les demandes finales en Europe, on voit que la valeur ajoutée venant de la Chine a beaucoup augmenté, alors que ce n'est pas vrai quand on regarde la position de la France en Chine. Et vous allez me dire, et ça va dans le sens de ce qu'on disait sur la politique de la concurrence, ça a été positif pour le consommateur, plus de produits, une concurrence par rapport au prix. Donc là aussi, c'est toujours la problématique de vers quelle finalité on va, vers quel objectif on va. Est-ce que notre but, c'est de protéger le consommateur européen? Est-ce que c'est de protéger le producteur européen? Est-ce que c'est d'être leader demain dans 10-20 ans sur telle ou telle filière stratégique? C'est ça les questions essentielles et qui, à mon sens, en Europe, ont du mal à être traitées.
Anne Caro?
Oui, il y a de nombreux travaux sur la politique de concurrence qui montrent qu'elle a été appliquée de manière plus rigoureuse et plus stricte en Europe qu'aux États-Unis, par exemple, malgré le fait que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a eu très peu de fusions qui ont été interdites. Il y a quand même un point qu'il faut noter, c'est que la politique de concurrence, quand elle examine une fusion en Europe, elle accepte que la fusion ait lieu, mais au prix de revente de certains actifs. Et ces actifs, dans pratiquement la moitié des cas, sont revendus à des entreprises extra-européennes, parce que c'est eux les acheteurs, tout simplement. Mmh. Et donc là, on voit qu'on a un problème un peu de contradiction entre des objectifs d'avoir plus de concurrence, qui est un très bon objectif en soi, et ce qui profite pas seulement aux consommateurs, mais aussi aux entreprises, parce que les entreprises, elles achètent, elles aussi. Et donc, elles sont bien contentes d'avoir des entreprises amont qui sont dans des situations concurrentielles. Mais très souvent, la revente de ces actifs qui sont le prix à payer pour les entreprises qui veulent fusionner, eh bien, elle se fait au profit de concurrents extra-européens. Et donc là, on a évidemment un problème.
Juste un mot, Anne Perrault, dans la note que vous avez coécrite pour le Conseil d'analyse économique, vous faites des préconisations, et notamment l'idée d'avoir un procureur commercial au niveau de la Commission européenne. Il servirait à quoi, en quelques mots?
Alors, ce procureur commercial, il serait le point d'entrée unique de l'ensemble des plaintes et des problèmes qui se posent aux frontières de l'Europe. Et il aurait, évidemment, il ne suffit pas de le nommer procureur commercial, il faut aussi lui donner des moyens. Il faut Un des gros problèmes, c'est les moyens d'investigation qui manquent, tout simplement parce que quand on pense qu'une entreprise chinoise, pour reprendre cet exemple, est subventionnée, un Européen ne peut pas débarquer en Chine et faire son enquête de manière si simple que ça pour savoir par où ont transité les subventions. Donc l'idée, ce serait de doter ce procureur commercial d'une force de frappe suffisante pour instruire les cas et imposer des droits anti-subventions.
Avec quelle doctrine ? Là, j'ai l'impression qu'on met la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord penser et ensuite mettre les outils pour.
Vous exagérez un petit peu en disant qu'il n'y a pas de doctrine. Il y a quand même une théorie du commerce international.
Il n'y a pas de doctrine sur la sécurité économique en Europe. Ou alors, montrez-moi le texte.
Il y a quand même beaucoup d'articles d'économistes qui s'intéressent à la question des représailles.
Vous voulez placer un militaire, vous, plutôt qu'un procureur, aller l'aider, non ?
Surtout pas. Mais je veux qu'il ait une pensée, qu'il ait un cadre de réflexion et qu'il sache ce qu'il faut protéger.
Ça ne veut pas dire que les militaires n'ont pas de pensée, hein, j'espère, les Laïdé. Bon, merci, en tout cas, à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Allez, je rappelle le titre de votre livre, paru chez Actes Sud, Ali Laïdé, Le droit, nouvelle arme de guerre économique. Merci à Anne-Sophie Alsif, qui était au téléphone depuis l'Espagne. Je rappelle, chef de projet à la Fabrique de l'Industrie. Et puis, merci à vous, Anne Perrault. Qu'est-ce qu'on peut citer? Bon, on peut trouver assez facilement les rapports et les notes que vous avez publiées. J'ai cité celle du Conseil d'analyse économique. Il y a également un rapport à l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, qui est sur un sujet extrêmement proche. Voilà, cette émission, vous pourrez la réécouter sur franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain. Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Richet, Antoine Dulster et Cyril Marchand. Émission réalisée par Peyre Le Grave avec la prise de son Nasser Moussaoui. La dispute, Arnaud Laporte, ce soir.
De la littérature dans 3 minutes pour une dispute qui vous amènera en Corse, dans le sud américain, et puis dans le petit salon de Lucille Como, ce qui est une autre histoire. Le thème du Club des Idées demain.
Mais où est passée la droite? On cherche, on l'aura peut-être trouvé ou retrouvé demain.
Vous demanderez à Valérie Pécresse.
Par
notamment.
Exemple.
On sera demain au Bel Air, comme tous les vendredis, vous et moi, Hervé Gardel. Donc à partir de 18h20, rendez-vous au bar de la Maison de la Radio.
Vous et moi, entre autres, nous ne serons pas seuls.
On pourrait le faire à huis clos, mais non, c'est pas le projet. Il est 19h, vous écoutez France Culture, les titres de l'actualité avec Aurélie Kiefer.